Donc oui, je m'appelle Pauline, je suis née en 90 au Cameroun, de deux parents en fait camerounais, donc père inconnu et mère qui est décédée quelques jours en fait après ma naissance. Et du coup, dans ce malheur entre guillemets, j'ai eu l'occasion de rencontrer ma famille du coup adoptive, mes deux parents qui en fait travaillaient dans cette région, enfin près de cette ville au Bala en tant que médecin, notamment mon père en tant que pédiatre. Et du coup, bon, une chose en entraînant une autre, ils ont décidé donc de m'adopter. Et donc, c'est important de dire que je suis donc une femme noire de plus d'une trentaine d'années qui a évolué et qui a grandi dans un milieu et dans une famille blanche en fait. Et donc, j'ai une fratrie, on est quatre. J'ai deux grands frères et une petite sœur. On a tous aux alentours d'une trentaine d'années, entre 30, 35 et 30 ans. Donc, née au Cameroun, après, j'ai grandi un petit peu dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Vers mes 17 ans, je suis revenue en France avec ma famille à Poitiers. Puis ensuite, j'ai vécu à Bordeaux. Et puis, je me suis installée à Marseille. Donc là, ça fait cet été, ça fera 6 ans que j'habite à Marseille. Et donc, moi, je suis éducatrice spécialisée. Enfin, je préfère dire travailleuse sociale, en fait. Et je suis très régulièrement amenée à intervenir dans des maisons d'enfants. Ça s'appelle maison d'enfants à caractère social. Et dans le langage courant, ça s'appelle des foyers. Et donc, quand je suis arrivée à Marseille, une des idées qui a émergé, c'était justement d'écrire en fait un manuel pour les enfants, notamment pour les enfants afrodescendants ou racisés, à savoir comment prendre soin de leurs cheveux.
Et à quel moment c'est devenu un sujet important pour toi, les cheveux?
En fait, ça a toujours été un sujet important dans ma construction. Il y avait quelque chose en fait autour de mes cheveux, et je pense que maintenant je peux le dire. J'en avais pas conscience avant, qui était lié finalement à qui je suis, comment les gens me perçoivent et ce que je représente. Il y avait mon corps, mais il y avait du coup mes cheveux en fait, qui font finalement partie de mon corps, qui m'ont toujours posé question. Le manuel que j'avais eu l'idée d'écrire, ça faisait partie d'une chose qui s'était cristallisée, c'était le conflit en fait finalement qu'il y avait entre moi et ma mère quand elle s'occupait de mes cheveux. Enfin, c'était pas vraiment un conflit, mais en tout cas, on appelait ça la séance de torture quand même. Parce que du coup, elle se retrouvait, elle, sans avoir de connaissances, à pas trop savoir comment faire pour s'occuper de ses cheveux. Je voyais qu'elle avait vraiment envie de le faire. Enfin, on prenait un temps vraiment spécifique pour moi, pour le faire. Mais c'était toujours compliqué, parce que j'avais mal. Elle était vraiment désolée, en fait, de ne pas savoir comment faire. Donc, il y a eu des fois où on m'a envoyée chez le coiffeur. Je suis revenue avec le crâne rasé, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait profondément marquée, parce que du coup, je ressemblais à un garçon. Et du coup, on me donnait des surnoms de garçons, d'ailleurs d'hommes sportifs, alors que j'étais haute comme trois pommes et que j'avais 5 ans, mais bon, c'est pas grave. Enfin, bref. Donc, oui, ça, je me souviens que ouais, quand j'étais rentrée, en fait, elle m'avait déposée. Je m'attendais pas du tout à raconter cette anecdote, mais en fait, elle m'avait déposée. On habitait en Afrique, elle m'avait déposée chez le coiffeur, avec mes frères. Et du coup, j'étais revenue avec la même coiffure que mes frères, quoi. Sauf que du coup, j'avais plus beaucoup de cheveux et c'était pas ce dont j'avais envie, quoi.
Ça, c'était quand tu vivais dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, à ce moment-là, ou c'était en France?
Oh non, non, ça c'était en Afrique, ouais.
Ouais, et...
C'est arrivé, enfin, il s'est arrivé une fois, ouais.
Ouais. Et ça, je trouve ça rigolo, enfin, je m'attendais pas... Donc ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise prise en charge avec des personnes...
Bah, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, donc du coup, je vais pas... Enfin, de toute façon, c'est des histoires vraiment très anciennes, donc elles ont déjà été, je pense, déformées un milliard de fois. Mais je pense que c'est plus, pour le coup, ma mère qui m'a amenée là sans trop savoir ce qui allait se passer. Et puis après, je sais pas ce qu'ils se sont dit entre adultes, mais il s'est passé ça, quoi. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'était dû au fait qu'elles ne sachent pas non plus trop comment faire. Et justement, parfois, moi, dans mon identité... Quand je conscientisais pas forcément que j'étais une femme noire, parce que oui, ça m'est arrivé, aussi étonnant que ça puisse paraître, une des choses qui me rattache toujours à ça, donc à une partie très importante de mon identité, c'est mes cheveux. Et c'est vraiment des univers que je pouvais pas partager finalement avec ma famille.
Est-ce que c'est un sujet dont tu as reparlé avec tes parents après coup?
De la relation avec mes cheveux?
Ouais.
J'ai pu essayer d'en reparler, notamment quand j'ai écrit le petit manuel, tout ça. C'était assez gênant pour ma mère, en fait. Je pense qu'elle culpabilisait beaucoup. Ça, c'est une histoire marquante. Je pense qu'elle a pu plus tard impulser l'idée de ce manuel. Et puis après, il y a eu tous les moments difficiles. Et puis surtout, à l'adolescence, en fait, je voulais absolument... je cherchais, en fait, à avoir les cheveux lisses. Parce que pour moi, c'était le fait d'avoir les cheveux lisses, le fait d'avoir les cheveux dans le vent, enfin voilà, ce genre de choses. Ça représentait, en fait, la féminité que j'avais envie d'avoir. Et du coup, je me disais, si j'ai ça, je pense que je serai beaucoup plus belle et que j'arriverai, je sais pas, à séduire beaucoup plus de personnes, du coup. Après tout ça, c'était inconscient, je pense qu'il n'y a que maintenant que je peux le dire. Et du coup, pour le coup, encore une fois, ma mère, et ça, je l'en remercie, m'a toujours vraiment déconseillé de me défriser les cheveux, en fait, de dénaturer mes cheveux. Elle me disait tout le temps, t'es très belle comme ça, ça te va bien, ne change pas. Et en fait, pour dire à quel point j'avais pas connaissance de qui j'étais, parce qu'on habitait en Afrique, et quand je rentrais à Paris et que je voyais des femmes du coup qui avaient des coiffures plus sophistiquées que les femmes que je pouvais être amenée à croiser dans les pays où j'habitais, je pensais en fait que leur perruque ou leur cheveux lisses, c'était leurs vrais cheveux. Et je me disais quelles techniques elles ont employées pour réussir à être aussi belles, en fait, finalement. Et du coup, à 16 ans, après moult conflits avec ma mère, j'ai réussi à être accompagnée par une dame et me faire défriser les cheveux. J'étais trop contente et c'était trop drôle parce que le jour où je me suis fait défriser les cheveux, donc on n'a jamais vraiment les cheveux défrisés, en fait. Ils sont jamais lisses, en fait. Enfin, ils sont juste abîmés, tout droit. Enfin voilà, il y a aucune. Enfin, moi je trouve pas ça très joli maintenant. Et du coup, quand je suis sortie chez le coiffeur, j'avais un espèce de brushing horrible d'ailleurs. Et en fait, ce même jour, donc j'étais trop contente, je me regardais dans le miroir, je touchais mes cheveux, je me disais, ça y est, j'ai atteint le Saint Graal de la beauté, en fait, et de la féminité. Et en fait, on est allé à la plage. Et du coup, bah, forcément, ils ont regonflé, en fait, mes cheveux. Et quand je suis rentrée chez moi, bah, en fait, la coiffure était complètement changée. Et voilà. Et en fait, donc, après, j'ai fait des défrisages. J'ai essayé d'entretenir tout ça. Et ça demande énormément d'entretien de défriser ses cheveux. Et surtout, en fait, au fil du temps, je supportais pas ces produits qui sont extrêmement toxiques. Ça crée, en fait, sur ma peau, sur la peau de mon crâne, des croûtes. Et ça m'abîmait la tête. Donc, je saignais tout ça pour avoir les cheveux lisses, en fait. Et du coup, j'ai réussi à me dire un petit peu toute seule que ça en valait pas la peine. Et de là, j'ai commencé à... Bah, j'ai arrêté, en fait, les défrisages et je suis rentrée dans une phase où j'ai voulu garder mes cheveux naturels. Donc, ça veut dire qu'après, bon, je peux mettre... Enfin, faire des tresses, porter des perruques, des rajouts, des choses comme ça, mais mes cheveux sont toujours naturels. Ils sont très longs, très beaux, mais c'est vrai que ça demande... En fait, il y a des connaissances à avoir pour pouvoir les entretenir et c'est sûr que si on ne nous les transmet pas, c'est compliqué. Et c'est aussi comme ça, en fait, que l'idée du livre a émergé, en fait. C'était pour donner aux enfants envie, et puis qu'ils ne se retrouvent pas, en fait, au bout d'une certaine période de leur vie, démunis, en fait, face à cette envie, peut-être, d'être eux-mêmes. Enfin, moi, ce qui m'avait choquée, mais maintenant, on en parle beaucoup plus, c'était de voir des petites filles qui... Mais en fait, moi-même, fait de vouloir ressembler à des gens qui ne te ressemblent pas du tout, parce que du coup, tu n'as pas de modèle qui te permette de t'identifier à des personnes qui te ressemblent. Enfin, moi, pendant des années, en fait, je pensais que j'étais quelqu'un d'autre, en fait. C'est pour vous dire à quel point ça peut aller loin. Enfin, en fait, les dessins que les enfants font, ça montre un petit peu ce qu'ils ont dans leur inconscient et ce qu'ils projettent sur le monde. Et en fait, voilà, ils dessinent jamais de personnes avec la peau foncée ou avec des cheveux bouclés, crépus.
C'est à quel âge, du coup, que tu as fait ce choix-là de ne plus utiliser ces produits et tout ça?
La vingtaine, je pense. C'est juste que je me disais juste que ça m'abîmait, en fait. Mmh. Et le jeu en valait pas la chandelle, quoi.
Mmh. Et comment est-ce que tu as fait au début pour justement savoir comment ça faire défriser et tout ça? T'es allé...
Je sais pas. Après, la première fois que je suis allée, c'est la maman d'une copine qui était donc du coup africaine qui m'a accompagnée. Donc, du coup, j'étais dans un salon de coiffure. Après, j'ai toujours vu des gens qui le faisaient, j'ai pu leur poser des questions. Après, il y a dans tous les rayons, tous les magasins, quels que soient les pays où j'ai vécu, il y a des produits en fait qui proposent de défriser les cheveux avec des photos de filles qui ont les cheveux lisses et défrisés.
Et quand tu as changé d'avis, quand tu as voulu t'en occuper différemment? Oui, comment est-ce que tu as trouvé des informations? Comment est-ce que tu t'es renseignée sur ce sujet-là?
Bah, en fait, à l'époque, il n'y avait pas autant d'informations que ça. Donc, j'ai juste décidé ça. Je ne me rappelle plus de ce qui m'a décidé. Après, j'avais quand même une bande de copines qui étaient toutes afrodescendantes. Ce que je n'avais pas forcément avant. enfin, en tout cas pas de cette façon-là. C'était vraiment le moment où j'étais en train de devenir une femme. Et elle, en fait, elle s'assumait quand même. On n'avait pas de discussion autour de ces sujets-là. Mais peut-être qu'inconsciemment, j'avais envie d'essayer de leur ressembler parce que je les trouvais belles. Et donc, je pense que ça m'a inspirée. Quoi.
Et quand tu as parlé, du coup, de... Bah, déjà, si tu peux refaire un tout petit point sur le projet, je sais pas si tu as dit les choses que tu voulais dire là-dessus, mais...
Comment est-ce qu'il est né, ce projet de manuel sur les cheveux, et qu'est-ce que tu voulais mettre dedans, combien est-ce que tu t'es
investi,
ouais.
Donc j'ai un petit peu raconté comment mon cheminement il s'est construit. Après, du coup, il y a un bouquin que j'avais acheté, parce que je pense que c'est une question que j'avais depuis longtemps dans la tête, de Juliette Smeralda, docteur en sociologie. Ça s'appelle « Cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation ». Et en fait, elle parle justement de tout ce qu'on vient de se dire, et surtout de la disparition en fait, des connaissances, et pourquoi en fait, des personnes comme moi... Enfin, moi, j'ai grandi dans une famille de personnes blanches, mais en fait, il y a plein de personnes aussi racisées qui se retrouvent à pas savoir comment faire, ou à renier leurs cheveux, et en fait, elle explique pourquoi. Je me suis dit, bon, évidemment, je pourrais pas faire quelque chose d'aussi construit qu'elle, parce que c'est son domaine d'expertise, mais je pourrais aller dans son sens en faisant ce petit manuel et en commençant par le début, c'est-à-dire les enfants, en fait. Donc, ouais, ça m'a pris, je dirais que ça m'a pris plusieurs mois. Il y a une amie qui m'a aidée à écrire, parce que je pense qu'elle avait plus de capacité rédactionnelle que moi. Donc on se retrouvait, je lui expliquais un petit peu ce que je voulais faire. Il y a eu tout un travail de recherche en fait, de tutoriels sur YouTube, d'images pour essayer de rassembler en fait différentes choses, de les synthétiser. Après il a fallu trouver aussi une illustratrice. Puis après il a fallu trouver une autre personne pour la mise en page. Et après voilà, j'ai fait une maquette que j'ai pu envoyer à différentes maisons d'édition. Mais je voulais des maisons d'édition, des grandes maisons d'édition en fait. Donc voilà, j'ai dû l'envoyer à peut-être une vingtaine de maisons d'édition. Et j'ai eu des retours très positifs. Des fois, des retours manuscrits en disant que c'était une très bonne idée, qu'il ne fallait pas que je désespère, que je continue, mais que ça n'allait pas être possible. Et en fait, c'était vraiment avant le mouvement Black Lives Matter. Je pense Et puis c'était aussi avant le boom genre sur les réseaux sociaux, où on a commencé à parler de plein de sujets différents pour... inclure un maximum de personnes. Donc, ça l'a pas fait. Peut-être à 2-3 années près, ça l'aurait fait. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand je recherche sur Google des manuels, des choses comme ça, il y en a en fait beaucoup plus qu'avant. Et il y a une petite place, mais bon, ça reste infime, quoi.
Et je me demandais, les autres personnes qui étaient impliquées dans le projet, tu parlais de graphistes, etc., c'était des personnes qui étaient impliquées dans ce sujet-là ou rien à voir, juste...
Pas forcément. C'était que des femmes. C'était peut-être un hasard. Mais pas particulièrement impliquée dans ce sujet-là. Et c'était dommage d'ailleurs. Parce que ça aurait pu. Soit c'était une femme. Enfin, celle qui m'a aidée à rédiger, c'est une femme blanche. Et du coup, enfin voilà, il y a des moments où je pense que bon, elle m'aidait. Mais des fois, je pense qu'elle se disait. La barbe, tu vois, c'est un sujet intéressant. Elle pouvait pas y mettre autant de passion que moi. Tu vois. Pardon.
Non, j'allais dire justement dans des éléments un peu clés que t'as appris sur quand on prend soin de tes cheveux. Dire ouais, certains éléments de ton manuel dans ta maquette.
En fait, il y a de bien les hydrater, de les démêler en fait d'une certaine manière. Parce que moi, ce qui m'avait moi traumatisée, en fait, c'était... En fait, les cheveux lisses, on va les... Enfin, il me semble que vous les coiffez à sec ou mouillés, tous ensemble en fait. Mais en fait, l'idée, pour que ce soit plus facile pour une personne qui a les cheveux... crépus, frisés ou bouclés, c'est de les humidifier et de les diviser en parties, en fait, avec des produits naturels. Voilà.
Et par exemple, suivant quand tu disais des ressources sur Internet, etc., au final, ça prenait quelle forme? C'était quoi? C'était différents types de coiffures? C'était des explications un peu historiques ou des trucs vraiment pratiques?
Des trucs vraiment pratiques, en fait. C'était des blogueuses qui expliquaient, en fait, comment elles faisaient. Donc j'en ai regardé... une cinquantaine peut-être, différents, pour recouper après les différentes informations.
Du coup, tu disais que tu avais regardé plutôt des vidéos de blogueuses, etc. Je me dis, on aurait pu aussi se dire que tu serais allé parler à d'autres personnes qui ont les cheveux je me posais la question de savoir si est-ce que c'était parce que tu avais l'impression que tu n'avais pas accès à ces personnes-là ou tu penses que d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même histoire que toi feraient la même démarche.
J'ai parlé avec des mamans parce qu'en fait j'avais aussi vu et rencontré des enfants qui étaient coiffés n'importe comment, si je peux me permettre, parce que c'est pas très gentil. qui semblaient négligés. Enfin, leurs cheveux semblaient négligés, en fait. Bon, après, on s'en fout, si tu veux, en soi, mais tu sentais que c'était parce qu'il y avait une non-connaissance, en fait, et pas des enfants métis, notamment. Et du coup, j'avais pu aller échanger avec leur mère pour leur demander... Et en fait, elle m'avait fait part de leur de comment ça s'était passé. En fait, il y avait une dame notamment qui m'a expliqué que son bébé, donc elle était blanche et son mari était noir, et que très vite son bébé, en fait, il avait des dreadlocks. Bon, en soi, les dreadlocks, c'est pas un problème, mais il y a une manière en fait de les faire pousser, une manière de les entretenir. Et du coup, en fait, elle décrivait un sentiment de honte parce qu'elle savait pas comment faire. Et qu'il n'y avait pas de, il y avait personne pour lui expliquer parce qu'elle n'était pas forcément en lien avec la famille de son compagnon, en tout cas pas pour ce sujet-là, je m'en rappelle plus trop. Donc il y avait aussi ces rencontres, ces échanges-là, quoi.
Ton expérience, elle me fait penser à j'ai vu une poupée en chocolat d'Amandine Gay, qui est une femme noire française qui a été adoptée par des parents blancs. Et donc elle parle aussi de son rapport aux cheveux. Et elle raconte aussi que sa mère ne savait pas forcément s'en occuper et qu'il y avait des moments où elle avait les cheveux, le cuir chevelu abîmé, etc. Et Amandine Gay, dans le livre, elle dit j'aurais aimé que ces familles noires, ces mères noires qui ont sûrement grandi dans des familles non blanches, viennent me voir et viennent aider ma mère et lui donner des outils pour lui dire un peu quoi faire. Enfin, j'ai l'impression que le manuel que tu avais en tête, c'est aussi dans cette idée-là de venir et de
ah donner... Oui, c'est de réparer en fait cette chose qui manque, quoi.
C'est des enfants. Ouais, dans le monde. Ouais, moi je trouve ça rigolo qu'en fait qu'il n'y ait pas eu d'informations, que tu n'aies pas eu accès, pas forcément toi, mais toi, ta famille, tes parents, je sais pas, et même en tant qu'adolescente, accès à plus d'informations, je trouve ça fou. C'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas. Pour quelqu'un qui a grandi en plus dans des pays, pas forcément en France, quoi, mais en fait dans des pays où la majorité des gens ont les cheveux crépus et
sont... Oui, ouais, non, mais je trouve que ce que tu dis c'est intéressant. Après, j'ai essayé pendant que tu parlais de savoir pourquoi, parce que en Mauritanie, j'ai vécu en Mauritanie, j'étais déjà adolescente, j'avais des copines africaines, mauritaniennes, noires et maghrébines. Je sais pas pourquoi en fait on n'a pas partagé tout ça. Mais il y a une chose que je sais, c'est que si on a partagé une chose, c'était de se défriser les cheveux, en fait.
Ok.
C'est ça, en fait, le truc. Et que même aujourd'hui, un peu moins maintenant, moi, quand j'arrive avec mes cheveux crépus dans un salon de coiffure, ça emmerde tout le monde, en fait. Et ça depuis toujours, quoi.
Même dans un salon de coiffure pas blanc.
J'ai jamais été dans un salon de coiffure pour les personnes blanches.
Ok.
Jamais. Enfin, je me rappelle plus.
Et tu te sens, quand tu rentres dans un salon de ce type-là, t'as l'impression d'être comme n'importe qui d'autre dans le salon, ou t'as l'impression de, je sais pas, de pas appartenir.
Ça m'a pris des années, en fait, pour me sentir à l'aise. Maintenant, je me sens très à l'aise, je me sens comme tout le monde, en fait... Voilà, je sais que c'est quelque chose qui manque, qui est en lien avec qui je suis, donc une femme africaine. Donc non, ça va, ça se passe. Mais par contre, pendant tout un moment de ma vie, oui, j'étais très fermée, je n'osais pas parler, je n'osais pas m'exprimer, je ne me sentais pas à l'aise, j'étais beaucoup dans l'observation, je ne savais pas trop où mettre, comment dire les choses. Voilà, quoi. Maintenant, c'est plus... Mais ça m'a pris des années, par contre.
Je me retrouve dans ton histoire, alors pour le coup, hein, c'est différent, mais fille arabe, de parents algériens, mais maman avec les cheveux lisses, donc qui n'a pas su coiffer mes cheveux également quand j'étais jeune, qui a grandi dans un village Saint-Tropez, donc voilà, qu'avec des filles blanches. Donc après c'est autre chose, hein, c'est un autre type de cheveux parce que voilà, ça reste un cheveu frisé, pas crépus. Mais c'est quand tu disais je vais pas chez des coiffeurs blancs, mais en fait je me rends compte que nous on n'a pas, même pas d'offre en fait possible, et que la seule possibilité c'est d'aller dans les coiffeurs blancs. Et je me retrouve quand tu disais moi je suis un cauchemar, enfin, quand je rentre chez un coiffeur, je tremble, je transpire un peu parce que je sais qu'à chaque fois... soit la meuf elle va pas savoir rien que les démêler alors que c'est pas certain.
Et puis elle va les dénigrer en fait,
elle va les dénigrer. Elle va dire oh, je coiffe mieux mais les cheveux que je connais, et tu regardes la tête de la fille, elle a les cheveux aussi lisses que toi, enfin t'es là en mode ok, donc tu sais qu'elle va te rater.
Non mais en plus tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plein de personnes blanches qui ont les cheveux bouclés, donc en fait c'est vraiment pour te tenir à l'écart. C'est...
Et tu demandes quoi comme quand tu rentres chez le coiffeur, enfin comme coiffure ou comme
des tresses, des tissages, des poses de perruque, plein de choses.
Parce que ça, bon, ça craint. Moi, je me rends pas compte. Ça représente combien de temps,
Ça dépend vraiment des gens. Si je me fais des tresses, je peux les garder entre un mois et cinq mois, mais c'est un budget. Et c'est un budget énorme, les cheveux comme ça. À chaque fois que je vais me coiffer, je dépense à peu près entre 60 et 150 euros. Je pourrais y aller une fois par mois. Des fois, je me raisonne et quand j'ai moins d'argent et je me dis, je fais des coiffures qui vont coûter moins cher, qui vont durer plus longtemps. Mais dans tous les cas, en fait, j'essaie de compter. C'est difficile à chaque fois que tu vas chez le coiffeur pour t'en tirer pour moins de 100 euros en fait.
Un vrai truc aussi par rapport... parce que moi, je trouve que ma routine soin me coûte extrêmement cher et j'essaie de trouver des produits à peu près abordables. Et j'ai eu la chance un peu... dans une expérience, j'étais en Écosse et j'ai remarqué qu'au Royaume-Uni, ils avaient pas mal de produits pour cheveux frisés. Chose qu'en France... Il y a 10 ans, il n'y avait pas du tout.
Là, ça c'est là. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait de la thune à se faire.
Exactement, donc et je crois que c'est même...
De nous. Je suis... Mais c'est effarant, en fait, le nombre de projets aussi, du coup, qu'on nous incite maintenant...
À acheter.
Ouais, pour pouvoir...
Pour avoir ce joli cheveu bouclé que tu vois sur Instagram et sur les réseaux.
Exactement. Mais c'est ouf, il doit y avoir au moins une dizaine de... Allez, le minimum, c'est 5 bouteilles différentes si tu veux vraiment arriver au...
cheveux frisés, c'est incroyable. C'est un budget énorme. Entre 50 et 100 euros. Hein, pour, 50 et 100 euros, ça dépend. Mais
largement, voire plus. Hein.
Alors, moi, je vais te dire un truc dont j'ai un peu honte. C'est toi qui m'as fait réaliser, mais il y a plusieurs années, hein, dans un autre. Y a beaucoup de femmes noires qui portaient des perruques. Moi, mais ça, je l'avais jamais réalisé.
Mais ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, la perruque, parce qu'il y a énormément de femmes noires qui portent des perruques ou des rajouts, des cheveux artificiels, synthétiques, mais aussi naturels. Et pour les personnes blanches, certaines personnes blanches, la perruque, elle n'a pas du tout la même signification. Quand tu te fais démasquer en fait, avec ta perruque par une personne qui n'a pas la même culture que toi, en fait, tu peux être moqué. Enfin, on se moque de toi parce que voilà, c'est pour se déguiser, c'est théâtre, enfin, je trouve que c'est hyper humiliant en fait. Par exemple, moi je porte jamais de perruque au travail, parce que je sais que potentiellement on peut me l'enlever. Et en fait, j'imagine avec effroi la scène où ça pourrait arriver. Et alors qu'en soi, les personnes, en fait, si elles le font finalement, c'est consciemment ou inconsciemment pour ressembler aux personnes qui vont finalement se moquer d'elles quand elles vont découvrir que... On porte des cheveux finalement synthétiques.
C'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris. Tu vois, je trouve qu'on est assez mal éduqués sur les perruques. Parce que personnellement, moi, je pensais que quand les gens portaient des perruques, c'était justement parce qu'ils ne voulaient pas du tout... Enfin, ils avaient du mal à accepter leurs cheveux naturels. Et en grandissant, j'ai compris des fois, on pouvait avoir ses cheveux naturels et tout simplement vouloir une autre tête le jeudi, une autre tête le...
Exactement, le samedi.
Parce que en effet, pour les personnes blanches, je pense que ça va plus parfois être associé à la maladie ou quelque chose comme ça. Et il y a un peu cette pudeur, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on n'a pas dû voir.
C'est possible, oui. Mais en tout cas, c'est plus des moqueries, quoi.
Il y a des travaux d'analyse socioculturelle qui ont été faits. Où justement, ils montrent combien à chaque fois des femmes noires qu'on va montrer dans des séries ou des films comme très puissante, avec tout le stéréotype qu'il y a derrière, qu'on veut avoir de la femme noire puissante, on va la montrer dans un moment d'extrême vulnérabilité, et pour la montrer dans ce moment d'extrême vulnérabilité, elle va retirer sa perruque. Et la patatras, et donc l'exemple moi que j'ai en tête, c'était dans How to Get Away with Murder, j'ai oublié le nom de l'actrice qui me revient pas, mais qui joue cette femme noire très forte, qui est avocate dans une super grande université prestigieuse américaine. Et en fait, il y a un moment où tu la vois vulnérable, tu la vois pleurer, et en fait, elle retire sa perruque. Et c'est vraiment du white gaze.
Ah ouais, de ouf.
C'est ça, la mise en scène blanche derrière dessus, quoi.
Après, moi, j'enlèverai jamais ma perruque devant un homme blanc avec autant de confiance que devant un homme noir, par exemple. Donc il y a quand même quelque chose de très intime, en fait, finalement. Enfin, je le fais, on va dire, je le fais pas aussi rapidement que face à un homme noir. Et je le fais peut-être pas de la même manière, tu vois, je vais peut-être aller dans la salle de bain, fermer la porte, mettre quelque chose sur ma tête. Si je sais pas où la personne elle en est par rapport à ces sujets-là, je vais pas me mettre dans une position où je vais devoir expliquer des choses, où je vais me sentir mal à l'aise, où je vais avoir honte, ou alors la personne va découvrir quelque chose, tout un pan, tout un univers qu'elle ne connaissait pas. Flemme, quoi.
Et tu dirais que ça représente quoi pour toi? Parce qu'on a eu la discussion tout à l'heure sur le fait qu'effectivement, peut-être que pour les personnes blanches, les perruques, ça représente pas du tout la même chose que pour les personnes noires, parce que pas du tout la même culture du
jeu. Bah, en fait, les perruques, j'adore les perruques. Genre, j'ai des dizaines et des dizaines de perruques. Et en fait, c'est comme un personnage, en fait, que tu te crées. Bah voilà, tu t'identifies à certaines personnes et du coup, tu deviens un petit peu cette personne-là. Je sais pas si t'as vu la série Pose.
Non.
Parce que c'est tout un univers et du coup, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu me dire. Mais en fait, ça me permet aussi d'être cette fameuse femme blanche et finalement d'en rire. Tu vois, si j'ai envie de ressembler aujourd'hui à telle personne avec ma perruque et demain à une autre, et ben je le fais. Et toi, finalement, en tant que femme blanche, tu peux pas changer. C'est grâce à cette série-là qu'on peut qualifier de queer. qui m'a donné un outil en plus pour me sentir bien avec cette idée-là, par exemple.
Mais donc par rapport à la série Pose, c'est le fait que les actrices performent, enfin c'est cette idée de performance du genre, non pas que du genre d'ailleurs, mais un statut social qui sort dans le voguing et dans l'esprit ballroom qui est la série Pose, où là toi tu te dis c'est aussi de la performance d'une personne blanche.
Alors moi je suis pas dans l'idée de la performance du tout,
mais... de pouvoir agir comme,
mais en tout cas voilà, c'est un empouvoirment dans ce sens là en fait.
Ouais.
T'as les yeux comme ça.
Ouais, en fait, je trouve ça vraiment, je trouve ça super intéressant. En fait, je parle de performance parce que c'est le thème
qui a pris
Judith Butler en assistant à des ballrooms. Ouais. Et c'est quand elle a vu ces personnes queer qui performaient un statut social, enfin, qui étaient des personnes dans des situations.
Voilà, ils ont sublimé en fait ça par la performance.
Ouais.
Donc moi, je vais pas le faire de cette façon-là, mais j'ai pris un petit morceau en me disant, en fait, c'est pas ridicule de porter la perruque, c'est juste, j'ai envie de faire partie de votre groupe, et en plus, je peux changer un peu de personnage quand je veux,
ouais.
Et c'est trop cool.
Ouais. Ah, c'est trop intéressant comme comparaison avec
Enfin, est-ce que les cheveux ont ouvert une place dans la communauté afro, on va dire,
ouais, ou pas du tout? Ou est-ce que t'as...
Ouais, je pense que c'est une porte d'entrée. Je pense que, en tout cas, c'était une porte d'entrée à la connaissance, déjà, sur le cheveu afro de manière générale, du coup, sur moi-même, sur des personnes qui me ressemblent. Et donc, ouais, je pense que ça a été une porte d'entrée. Et puis, ce dont on parlait tout à l'heure, le fait d'être à l'aise dans un salon de coiffure afro et de me retrouver, enfin, de pas mettre une barrière entre moi et les gens, ça m'a aidé, ouais. Et.
Il y avait d'autres endroits qui faisaient le même, qui avaient le même rôle ou pas du tout?
Bah, le fait de parler avec des personnes adoptées, enfin, j'ai... En fait, grâce à différents ouvrages, tu as cité Amandine Gay tout à l'heure, grâce au documentaire qu'elle a fait Ouvrir la voie, et puis aux différents podcasts que j'ai pu écouter, notamment ce Drocaille Dialogue, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer d'aller vers quand même des gens qui me ressemblent. Parce qu'à un moment donné, je me retrouvais constamment, enfin, j'étais souvent dans des, je me suis beaucoup sociabilisée dans des groupes de personnes blanches. Et en fait, je suis arrivée à un point, en fait, de colère, en fait, de frustration, de nerfs tels que je devenais, en fait, très désagréable avec les gens, voire violente. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une solution à ça. Et donc, tout ce que je viens de dire m'a aidée. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que... Donc, je suis rentrée, ouais, dans des groupes, en fait, de... Je sais pas comment on pourrait dire ça. Pas des groupes de parole, mais des groupes en non-mixité. Et plus spécifiquement avec des personnes adoptées, des personnes racisées.
Toujours. Okay. Et ça... Est-ce que les cheveux, ça a été un sujet là-dedans ou...
Honnêtement, ça n'a pas été le gros de nos échanges, mais... Ça a pu être questionné, même ponctuellement. Donc, ouais, se retrouver dans la parole de l'autre, je trouve que c'est pas mal, déjà. Énorme, même.
Ah oui, moi, je voulais... Non, mais la question que je voulais savoir, c'est si t'avais des recommandations de... lecture, blog, ce que tu veux. Toi, aujourd'hui, s'il y avait une personne qui savait pas comment s'occuper de ses propres cheveux ou des cheveux de ses enfants... Soit s'occuper ou soit comprendre le contexte...
comprendre, bah du coup, il y a, ouais, le contexte historique, donc il y a le bouquin dont je parlais tout à l'heure de Juliette Smeralda, Cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. Après, autour de toutes ces questions-là, il y a le Instagram de Estelle Despris, Semblant de rien, ça s'appelle. Elle parle de la blanchité, de toutes ces questions-là. Après, il y a un livre pour enfants, Papillon noir, de Laurent Safou et Barbara Brun. Voilà, imagé avec une histoire de papillon pour apprendre à aimer ses cheveux. Puis après, il y a des épisodes de Kif Taras, du podcast de Grassley et Rokhaya Diallo, un classique.
Et t'as vu sortir un manuel un peu comme celui que tu voulais
J'ai re-regardé tout à l'heure et je me suis dit non mais c'est pas possible, je me suis fait plagier. Mais bref,
c'est possible, ça.
Je prendrai le temps de plus regarder si ça se trouve, c'est une coïncidence. Mais en fait, il y a vraiment des tournures de phrases, et même en fait, l'illustration que j'avais fait faire sur la couverture. Enfin, bref. Il y a un manuel qui est sorti, je crois, en 2019. Enfin, et ça a été un peu précurseur pour qu'en France, ça devienne plus courant dans les maisons d'édition.
Trop bien.
Ouais.
Trop cool. Bah, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Trop intéressant.